Prime Vert, le salon rencontre de l'altérécologie, une série d'émissions réalisées par Aura FM, la Fédération des radios associatives Auvergne-Rhône-Alpes.
Moi, c'est Noé Guiraud, je suis géographe au laboratoire d'études rurales à l'Université de Lyon 2. Je travaille sur un projet de recherche-action en Drôme provençal sur la résilience alimentaire. Et je suis membre de l'association Les Greniers d'Abondance, donc je représente ici aujourd'hui, qui est une association assez jeune, qui a été créée en 2018 et qui vise à sensibiliser sur la question de la résilience alimentaire et à promouvoir en fait aussi, de créer un plaidoyer autour de la résilience alimentaire. Donc on est une association d'environ 180 personnes à l'échelle nationale. C'est essentiellement des ingénieurs en agro notamment, mais pas que, quelques scientifiques, des citoyens qui n'ont pas forcément dans des études ou autres, et puis des agriculteurs, des gens dans le secteur agroalimentaire, etc.
Ah oui, c'est quand même ça balaye un spectre de citoyens très très large, effectivement. Oui.
Bah, c'est le propre de l'alimentation, je crois que ça touche beaucoup de gens dans leur métier ou dans leur intimité, et c'est ça qui est sympa.
Et justement, peut-être définir le... Parce que résilience alimentaire, oui. Peut-être redéfinir ce qu'on entend par résilience.
Oui, ouais. Plutôt qu'on peut comprendre ce que veulent dire chacun des deux mots séparément, mais les deux mots ensemble...
Qu'est-ce que l'association veut dire ?
Le fait qu'ils soient ensemble est important. Ouais. Bon, le mot résilience, on est d'accord, je pense, tous pour se dire qu'elle est un peu utilisé à toutes les sauces.
Oui.
Ici, c'est en fait de poser le constat scientifique, notamment. Je reviendrai sur l'action de l'association après.
Oui, bien sûr.
Le constat scientifique, donc, que notre système alimentaire aujourd'hui est défaillant et très vulnérable. Et que sa capacité à nourrir la population est d'ores et déjà remise en cause et le sera d'autant plus dans l'avenir. Et donc, on travaille à construire un plaidoyer qui montre que cette constatation est un consensus scientifique aujourd'hui, qu'il y a des arguments, des chiffres qui le montrent, et que par conséquent, il faut agir pour transformer notre système alimentaire et le faire dans l'optique de nourrir la population. Et c'est ça la résilience alimentaire, c'est de voir comment on va être capable de transformer notre système alimentaire pour nourrir la population demain face à ces grandes menaces qui pèsent aujourd'hui, qui sont le dérèglement climatique,
oui.
La chute de la biodiversité, la contraction des ressources fossiles, et j'en passe.
Donc, et puis, les problèmes liés à la surproduction, enfin, j'imagine qu'il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte.
Tout à fait, en fait, ce qui est un peu particulier, c'est que particulièrement préoccupant, c'est que le système alimentaire, en fait, c'est le premier contributeur à ces dérèglements à l'échelle mondiale. Mmh. Et à la fois, c'est aussi la première victime.
Oui, tout à fait.
Et donc, faut avoir un peu. Je pense qu'on peut utiliser l'image de quelqu'un assis sur une branche qui est en train de scier la branche. Voilà, donc c'est un peu là où on en est.
Quoi. Oui. Bon. Bah, on a de l'espoir, non?
Alors voilà, on ne fait pas que déprimer les gens autour de nous.
Bah oui, parce que si vous rédigez un plaidoyer, c'est qu'il y a, vous cherchez des solutions. Vous allez en proposer.
Bien sûr, mais il y en a des solutions et les gens n'ont pas attendu aujourd'hui pour les mettre en action. Donc en fait, nous, on montre qu'il y a beaucoup de choses qui existent, qui peuvent être mises en place, notamment à l'échelle des territoires.
Oui.
On met notamment en valeur que les collectivités ont un rôle important et très pertinent à se mobiliser sur cette thématique-là.
Oui.
En fait, aujourd'hui, l'alimentation n'est pas une compétence publique. Je veux dire, les collectivités n'ont pas en charge de s'assurer que toute sa population va manger correctement.
Et ça fait partie des objectifs de l'association, ça, ou non ? C'est un constat Est-ce que ça pourrait être un objectif ?
Oui, bien sûr, ça pourrait tout à fait être un objectif. Et je pense que c'est une très bonne idée, effectivement, d'en faire une compétence publique. Mmh. Mais c'est aussi que les collectivités ont plein d'autres compétences qui peuvent être mobilisés pour agir sur l'alimentation. On peut parler de l'emploi, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, l'environnement, etc. Oui. En fait, il y a tout un tas de compétences qui ne sont pas directement liées à l'alimentation, mais qui, enfin, en fait, la plus directe, c'est la restauration collective, On entend beaucoup de choses autour de ça. Mais en fait, quand on a une approche un peu systémique de notre alimentation, on comprend que préserver du foncier agricole, travailler la fertilité des sols, s'intéresser à l'usage de l'eau sur son territoire, les captages, tout ça, ce sont autant d'actions qui doivent être prises en compte dans une approche d'alimentation. L'enjeu pour les collectivités, c'est d'arriver à mettre en cohérence tout ça avec une vision politique pour transformer réellement le système alimentaire.
Donc vous, votre projet, c'est plus de faire prendre conscience aux gens que c'est systémique, c'est-à-dire que c'est très général, plutôt que de... Parce qu'après, j'imagine pour la situation très compliquée d'aller s'occuper des terres agricoles, s'occuper d'aller voir les gens des déchets, ou est-ce que c'est quand même le projet d'aller voir tout le monde un peu comme ça?
Alors,
qu'est-ce que vous faites concrètement,
oui,
en fait?
Où est-ce qu'on se situe? Nous, on n'accompagne pas de collectivité, on met pas en place d'action particulière. Voilà, on a positionné notre rôle dans le plaidoyer, la mise en avant d'un consensus scientifique. On fait aussi des projets de recherche pour nourrir notre réflexion. Et ensuite, on travaille on fait de la sensibilisation, en fait. Donc, on va voir les élus, les communes. On y va souvent à la sollicitation d'associations citoyennes, par exemple, mais aussi de collectivités.
Donc, vous allez voir les décideurs, quand même.
Oui, les élus. On essaye de parler de tout ça. C'est des enjeux qui ne sont pas faciles. On essaye de montrer l'importance de ces enjeux, mais aussi de leur montrer leur capacité d'action, leur capacité d'agir.
Qui peuvent vraiment faire quelque chose.
Donc ça c'est vraiment un axe important. On a aussi un outil en ligne qui s'appelle Crater, qui mobilise de la donnée publique statistique, qui permet à tout à chacun d'aller sur Internet, taper le nom de sa commune et de voir directement quels sont les usages des pesticides sur son territoire, la population agricole, super. L'artificialisation des sols, etc.
Crater comme un cratère...
Calculateur de résilience alimentaire sur le territoire.
Mais si, sur un moteur de recherche, on écrit cratère comme un cratère.
J'ai pas l'adresse là.
J'imagine que si on trouve cratère,
si
alimentation,
cratère et résilience alimentaire, vous tomberez.
Oui, voilà,
c'est le premier qui sort.
Les trois mots clés. Très bien. Ouais. Est-ce que les deux années de Covid qu'on vient de passer ont changé la donne, ont accéléré des choses qui étaient déjà en route? Est-ce que ça va vous faciliter la tâche d'aller voir les élus notamment et de leur dire vous avez vu, il suffit qu'il y ait deux frontières qui ferment et c'est encore pire qu'avant? Est-ce que ça va plutôt vous faciliter la tâche ou est-ce qu'au contraire ça vous a fait perdre du temps?
Non, je crois que pour nous ça a été une forme d'illustration de ce que ça peut être. En même temps, l'impact a été j'aurais envie de dire assez minime malgré tout, mais ça a quand même montré comment ça peut aller vite, parce que le système alimentaire mondialisé, c'est des flux tendus,
c'est ça.
Un problème de logistique, le prix du transport qui augmente, les tablettes se vident très très vite, ça je pense que tout le monde en a pris conscience et tant mieux. Après, il y a eu des réactions un peu rapides d'essayer d'envoyer les gens dans les champs. Bon, je crois que c'était peut-être un raccourci.
C'est sûr.
Mais tout à fait. Et puis je crois qu'on malgré tout, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est quelque chose qui est porteur. Ça fait du sens auprès de beaucoup d'élus. Ça fait du sens auprès de beaucoup de gens, évidemment.
Bien sûr.
Et l'avantage de l'alimentation, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement fédérateur qui peut être aussi... un moteur de projet en fait pour un territoire, pour une ville, pour une commune, de rallier les gens autour de l'alimentation, c'est aussi faire territoire, c'est aussi faire du projet, c'est aussi et donc je crois que cette dimension là elle est aussi très importante.
Est-ce qu'il y a des on va enfoncer des portes ouvertes, mais je pense qu'il y a des choses, ça vaut le coup de les rabâcher souvent. Est-ce qu'il y a des conseils très précis, des choses très très quotidiennes, faciles, que nos auditrices et nos auditeurs et nous-mêmes on peut mettre en place pour apporter une petite pierre à l'édifice, pour aller dans ce sens-là, pour aller vers un peu plus de bon sens?
Il y a une multitude d'actions, évidemment. Nous, on n'a pas ciblé ce champ-là d'actions individuelles.
Ouais.
Je crois que ce qui est important, c'est y a une multiplicité d'échelles d'actions, on va dire. Il y a la sienne, il y a celle de sa collectivité, il y a celle de l'État aussi. La semaine prochaine, j'en profite, la semaine prochaine, on sort un nouveau rapport qui va porter sur l'échelle nationale, où on met en avant trois actions qui nous semblent pertinentes et urgentes à mettre en place au niveau national. Mais pour revenir donc à la question, il y a plein de choses. Je pense qu'il y a une des premières choses, c'est de comprendre que la façon dont on mange implique des impacts sur toute le secteur, tout le système derrière. C'est-à-dire que si on mange très transformé, par exemple,
ouais,
ça va impliquer énormément d'industries, énormément d'intermédiaires, énormément aussi en fait, de matières non agricoles. On n'y pense pas, hein, mais on mange beaucoup de pétrole et de minerais, en fait.
Et ça impacte notre santé aussi.
Et ça impacte notre santé.
Jusqu'à notre santé.
Exactement. Donc, ouais, je pense que premier niveau, c'est réfléchir à comment on mange. Mmh. Moi, je dis souvent, si on devait vivre dans les paysages qui produisent ce qu'on mange, on mangerait peut-être différemment. Mmh. Et je crois que ça, c'est... Voilà, je pense que c'est le premier niveau. Après, il y a la sensibilisation, l'éducation autour de l'alimentation. Je crois que là, c'est aussi un rôle des collectivités. Hein. Désolé, je reviens à ça.
Mais bien sûr.
Mais quand on change...
Ils nous écoutent.
sûr, les collectivités, l'éducation nationale peut-être.
Quand on change les choses à l'école, ben en fait, tous ces repas qu'on prend à la cantine, mm-hmm, c'est aussi une éducation au goût, à l'alimentation qui se fait auprès des enfants.
Ouais.
Et là, il y a plein de choses à faire. Et je crois que c'est... on nous le dit souvent, donc, parce que quand on fait des conférences, etc. Mais la sensibilisation, et oui, c'est vrai, c'est vraiment important. Ouais.
Est-ce qu'il y a un site internet, si on tape pareil, les greniers d'abondance sur un moteur de recherche
Il y a un site internet qui s'appelle résiliencealimentaire.com, je pense.
Résiliencealimentaire.com.
Ah, je suis nul là-dessus, mais...
Il y a le prospectus.
Ah non, c'est .org.
Résiliencealimentaire.org. Très bien. Eh bien, parfait. La petite question du jour, quelle est votre définition, quelle serait votre définition toute personnelle de l'alter-écologie?
Alors, très honnêtement...
Très honnêtement.
Il va y avoir un silence. parce que je ne suis pas bon là-dessus. Je ne sais pas trop. J'ai pas de...
Quand vous voyez les affiches Salon Prime Vert, Prime Vert Salon de l'Alter Écologie, ça dit quoi l'Alter Écologie?
Oui, l'Alter, ça renvoie à l'alternative. Donc, ça renvoie à des... je pense à des façons de penser l'écologie différentes. Et à mon avis, l'intérêt de l'alternative, c'est d'imaginer des voies différentes de faire de l'écologie. Alors, différentes de quoi, vous allez me dire? C'est quoi alter à quoi, quoi, hein?
Alter à quoi, voilà, c'est ça.
C'est plus là où j'ai du mal à savoir exactement. Peut-être alter à une écologie qui est très réductrice, qui met tout dans le bilan carbone et le climat, peut-être. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est... on réduit beaucoup ça ce grand C, l'équivalent carbone, et quelque part oui, c'est très important, mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, oui, l'écologie, que ça, ouais. Voilà, peut-être que ça me renvoie
bien,
en
c'est
tout ça.
Une très bonne définition,
ça vous plaît?
C'est une belle alternative aux autres définitions qu'on a eues.
Exactement, on a plein de définitions toutes alternatives les unes des autres. Quel est l'objectif des greniers d'abondance d'être là pendant 3 jours sur ce salon? Parce que justement, on l'a compris, vous vous adressez évidemment au grand public, mais c'est pas la cible principale pour faire bouger les choses, c'est pas votre cible principale. Vous venez présenter votre action, vous venez fédérer des gens, vous recrutez peut-être des bénévoles, des bras, des nouveaux cerveaux qui viennent se rajouter à la réflexion générale.
En fait, quand même, le grand public fait partie de notre cible, pour parler comme ça, parce qu'on communique, on essaye de créer des outils de vulgarisation, en fait.
Oui.
Donc, par exemple, sur notre site internet, on a résumé on a publié un guide vers la résilience alimentaire,
d'accord,
qui est un livre qui est accessible sur le site internet en PDF. Mais on a aussi fait une version infographique plus didactique, plus pédagogique, en fait, sur ces questions-là. Donc, je pense que le grand public est vraiment au cœur aussi de notre cible. Et c'est la première fois qu'on fait un salon.
D'accord.
Donc c'est une découverte pour nous de venir tenir un stand, et on est ravis de ça, de pouvoir voir les gens et de se voir. Ça fait vachement de bien, en fait. Et puis les discussions sont hyper riches.
Ouais.
On a rencontré des gens qui se posent plein de questions, qui font plein de choses à leur échelle, des élus qui sont là, qui nous soutiennent. On a le président de la métropole de Lyon qui vient de passer nous voir. La métropole va adhérer à notre association parce que les collectivités peuvent adhérer.
Peuvent adhérer, d'accord.
Voilà. Je crois que l'objectif, c'est de se donner de se montrer aussi, de montrer que c'est des gens, c'est des bénévoles, qu'on est pareil que tout le monde.
Oui, oui.
Et ça donne l'opportunité aussi d'approfondir. Je pense que c'est bien de venir aussi peut-être s'offrir, en tout cas de s'ouvrir et de pouvoir se justifier ou d'argumenter peut-être face à des gens qui auraient, voilà, qui comprennent pas, mais qu'est-ce que, enfin, ça, je trouve que c'est important d'avoir cette démarche-là. Et puis bah, on rencontre plein d'autres assos oui. exposants et ça fait du bien de.
Il y a des échanges
et
des
rencontres. C'est un petit bain, je crois.
Et ben merci beaucoup. Merci. Bon salon.
Ouais, merci. Merci à vous.
C'était le salon Primevert à Eurexpo, une série d'émissions réalisée par Aura FM, la Fédération des radios associatives Auvergne-Rhône-Alpes.